Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Aubart, Christine Minetto, Régis Forgione, Hugo et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb.
Et salut à tous les copains. Bonsoir, bienvenue dans le numéro 94 de eTeachers qui commence en retard à cause de moi. Voilà, bon. Désolé les gars. Salut Jeff, salut Seb.
Salut, c'est la dernière de la saison, donc un peu plus d'entrain, c'est les vacances.
Voilà, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud, et il fait beau aussi, donc on en profite.
C'est vrai qu'il fait chaud, c'est vrai qu'il fait chaud, ouais.
C'est marrant parce que vous regardez tous les deux, j'ai l'impression que vous vivez dans un sous-marin ou dans des pièces sans fenêtre, vous avez une couleur très...
C'est vrai.
Moi, je suis vers une fenêtre, vous voyez, on voit il fait encore jour, voilà.
C'est vrai, mais moi j'ai fermé les volets, tu sais, pour...
Ah oui, voilà, histoire d'être... Ouais. Plus dans le noir, bien sûr.
C'est ça, tout à fait.
Moi, vous regrettez qu'on ne soit pas en odorama avec le barbecue.
Ah, attends, mais c'était barbecue ce soir aussi, hein, tout à fait. Tu vois.
Oui, sauf que ça, c'est pas chez moi.
Ça, c'est une superbe idée, effectivement, à prévoir pour les années à venir. Bon, comme tu dis, c'est la dernière de la saison. On est bien content à la fois de faire cette dernière et à la fois aussi de partir un peu en vacances, on va pas se mentir. Des petites choses à nous dire sur les émissions précédentes, des retours, des choses?
Ouais, il y a un petit retour sur l'émission 93. On avait parlé de la Frama Kill, la Frama School, qui était cette clé USB avec des outils un peu comment ça s'appelle pour les dyslexiques, pour tout ce qui est un peu élève à besoin particulier. Alors j'avais fait une petite bêtise, j'ai été repris en tout cas sur Twitter par Gavroche Numérique qui m'a dit que le projet Framaki était bien de Framasoft au début, mais il a été transformé pour fin de Framaschool par exactement le conseiller numérique de l'ASH de Lain, voilà, qui avait transformé cette clé Framaki, puisque a priori elle est en pause, ce projet de clé Framaki. Donc merci en tout cas de m'avoir repris. C'est vrai que des fois on raconte des bêtises, c'est très bien en tout cas qu'on les pointe.
Bah
c'est
oui.
Voilà.
Ça prouve qu'il y a, c'est comme en classe, ça prouve qu'il y a des gens qui suivent ou qui nous écoutent.
C'est ça.
Donc, merci pour merci ce retour.
Allez, un petit sommaire. On a deux petites actualités ce soir. On va parler de quelques outils aussi. Seb va nous parler de son outil récurrent, comme d'hab. Hein. Voilà. des trucs et astuces ce soir. Deux petits trucs et astuces. Je lancerai un petit débat sur en innovation et expérimentation sur la formation des profs.
Hein,
on en avait un petit peu parlé, voilà. Et puis on finira par toujours comme d'habitude avec ce que l'on fait en ce moment et pour parler d'autre chose, voilà, pour finir en tout cas cette belle saison.
N'hésitez pas à intervenir sur le chat de la vidéo YouTube ou autre si vous avez besoin d'échanger avec nous.
Tout à fait. On est parti?
On y va.
Je crois que c'est moi qui attaque. Je vais parler du Click 2019. On était partenaire cette année encore. On a eu un petit retour, en tout cas, a priori, un franc succès, en tout cas, du Click 2019, puisque cette quatrième édition, avec plus de 660 participants, 120 interventions. C'est donc ce congrès des classes inversées, oui pardon, je l'ai pas dit, hein. Congrès des classes inversées et pédagogie active qui se déroulait du 28 au 30 juin à Paris, à la faculté des sciences de la Sorbonne. Donc de plus en plus, 3 journées, 660 participants comme je vous disais, de toutes disciplines et de tous niveaux confondus. On avait mélangé avec les acteurs de l'éducation aussi, se sont retrouvés pour échanger, se former et partager des retours d'expérience autour des classes inversées et pédagogie active. Il y a eu près de 120 interventions avec 6 formats différents, des retours d'expérience, des ateliers, voilà, d'enseignants et autres, et aussi de tout ce qui est enseignant aussi francophone. Hein, ce n'était pas uniquement français. Il a été introduit en tout cas à la conférence par monsieur Jean-Marc Mériot, on l'avait dit, hein, directeur du numérique pour l'éducation. Et il a été clôturé par une conférence interactive animée par l'équipe d'inverseurs de Florence Raffin, la Team Fizz, qui est assez connue en tout cas dans tous les regroupements en tout cas d'enseignants. Voilà, une petite suite pour l'association Inversion la classe. L'Inversion la classe, qui est l'association qui est derrière le CLIC, qui est heureuse de poursuivre sa mission de co-formation par les pairs entre enseignants en étant présente à Ludovia. Ils seront à Ludovia du 20 au 23 août. Avec un clic, avec un X au bout, dont l'objectif est de permettre aux enseignants d'échanger, de débattre et de multiplier les connaissances et nouvelles pratiques des classes inversées et pédagogie active. Voilà. Ensuite, ils auront la semaine des classes inversées qui se déroule depuis quelques années déjà et qui se déroulera en janvier 2020. Voilà, en tout cas, pour le petit retour clic 2019. C'est à moi, Jean. Ouais, c'est moi qui enchaîne.
Tu nous laisses un peu sans voix, là.
Voilà, bah oui. On les verra en tout cas, Ludovia. J'enchaîne, parce qu'il y a comme moi encore qui a mis des actus. Hein.
Vas-y.
Ça va être assez rapide. J'ai trouvé un Padlet. Vous savez, les Padlets, c'est affichages virtuels, ou en tout cas, ces panneaux d'affichage virtuels. On peut mettre plein de choses dessus. Il a été fait par une certaine Céline Canard, qui a fait un travail, je trouve, assez remarquable sur la mutualisation de classes flexibles, vous savez, pour l'aménagement de classes, etc. Et si vous allez sur ce Padlet-là, je vous donnerai l'adresse, parce qu'il est un peu compliqué pour aller sur le Padlet, hein, où elle a répertorié, en tout cas, tout ce qui est, en plusieurs catégories, tout ce qui est organisation de classe, dans tout ce qui est matériel, avec pas mal d'idées, pas mal de trouvailles au point de vue matériel, des idées, des achats, de la récupération aussi, pas mal d'idées de récup, hein. Pas besoin d'aller chercher dans des chaises à une fortune, on peut des fois se débrouiller avec dans différents magasins et en faisant de la récup. Elle a regroupé en organisation, fonctionnement, comment on aménage, avec les ateliers, etc. Elle a regroupé pas mal de choses sur les articles de témoignages sur comment on a d'agencement de classe. Et puis d'autres sources supplémentaires aussi. Et franchement, c'est une mine. Je suis tombé sur ce Padlet-là. C'est une mine c'est un peu en ce moment, on entend beaucoup parler de ces classes flexibles, de ces classes qui doivent bouger, qui doivent être facilement modulables. Donc je trouve en tout cas c'est une bonne initiative de ce Padlet-là. Je le mettrai en lien dans les notes de l'émission. Voilà en tout cas
sur ces actus. Merci.
Outils ?
Eh ben on va enchaîner avec les outils, tout à fait.
Allez, j'ai assez parlé, Seb, vas-y.
Okay. Tu veux que je prenne ?
Bien sûr.
Ok, donc à la surprise générale et devant l'impatience de mes collègues, là, je le sens bien. De quoi va-t-on parler ce soir ? De mon outil de l'année. Alors, ouais, voilà, on va dire que c'est mon outil de l'année. C'est celui que j'ai le plus utilisé cette année, sur lequel j'ai fait le plus de trucs cette année. Bon, je me suis bien éclaté avec. Donc, on va parler Book Creator. Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau encore à dire là-dessus, me direz-vous, bien sûr.
Moi, je ne connais pas.
Oh là là, Book Creator. C'est un outil qui est très pratique, que tu peux trouver soit en navigateur sur les plateformes Android, soit sur les iPads, sur iOS, tu peux le trouver directement en application. Mais à quoi cela sert-il, me diras-tu ? Eh bien, c'est une très bonne question à laquelle je vais répondre. Ça sert à créer des livres numériques dans lesquels tu peux intégrer du son, tu peux intégrer des images, du texte, mais aussi des vidéos. Incroyable. Voilà. Alors, tu peux intégrer aussi autre chose. L'autre chose étant depuis le début, Book Creator a un outil que moi, je n'utilise pas, qui est l'outil dessin. Bon, ça ouvre une petite fenêtre de dessin dans laquelle vous avez un pauvre stylo dont vous pouvez changer la couleur, heureusement. Assez peu la taille du trait, c'est assez limité, et puis voilà, vous pouvez effacer. Bon, c'est pas top comme utilisation, et la bonne nouvelle du jour, c'est qu'ils l'ont mise à jour.
Ah,
c'est une répétition. Ils l'ont mise à jour, alors déjà plus de style d'écriture, ça ressemble un peu plus aux applications de dessin qu'on va trouver sur iOS, etc. Donc plus de style d'écriture, ça c'est pas mal. Ensuite, vous avez un outil qui est très sympa, qui est le remplissage. Ou le pot de peinture, pour ceux qui sont habitués. Ça, c'est pratique aussi. Oui. Vous pouvez rajouter des emojis, vous vous en fichez. Moi, mes élèves n'attendraient que ça. Mais bon, ils se débrouillaient déjà bien sans. Mais c'est pas grave, hein, on a rajouté ça dans les dessins. Vous pouvez modifier les dessins même une fois qu'ils ont été réalisés. Une fois que vous êtes sorti de la fenêtre, vous pouvez revenir dessus pour les modifier. Ça, c'est inédit. Vous pouvez également avoir une encre magique au choix, au bonheur des dessins, de l'encre qui change aux couleurs de l'arc-en-ciel. Encore une innovation dont moi je m'en fiche un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Ah oui. La dernière petite chose, et pas la moindre, c'est qu'ils ont intégré AutoDraw. Alors, AutoDraw, c'est cette espèce de truc que je crois que ça vient de chez Google. En gros, vous dessinez, je ne sais pas moi, deux boules l'une sur l'autre et le logiciel, avec son intelligence artificielle, est à même de vous proposer, est-ce que tu as voulu dessiner un bonhomme de neige? Je le finis pour toi. Voilà. Donc, vous avez toute cette... au fur et à mesure que vous ajoutez des traits très maladroits à votre dessin, il est capable de vous sortir des trucs très bien finis. Voilà. Ça a l'air sympa. Je ne sais pas vraiment comment ça va être intégré dans des... parce que Book Creator, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut l'utiliser hors ligne. Et AutoDraw, dans mes souvenirs, ça s'utilise en ligne. Donc, je ne sais pas comment les deux vont rentrer. Là, pour l'instant, je n'ai pas pu l'utiliser sur iPad parce qu'il n'est pas encore mis à jour, figurez-vous. Il est en ligne, c'est disponible. C'est très sympathique, hein, mais voilà, j'attends la version iPad. Mais là, sinon, voilà.
Un stylet pour dessiner ou au doigt, ça
Ah non, au doigt, tu peux y arriver. Tu peux y arriver. De toute façon, moi, sur les iPads que j'utilise dans ma classe, le stylet ne passe pas, puisque bien sûr, le stylet, c'était le mal, fut une époque. Maintenant, c'est le bien. Okay. Le bien, un peu cher, mais le bien. Donc, non, tu n'as pas besoin d'un stylet. Justement, c'est le côté pratique. C'est que tu dessines. J'ai dessiné de façon horrible un truc avec deux yeux, m'a sorti une tête de chat très très mignonne. Hein.
Non, avec AutoDraw, oui.
Voilà. Voilà, donc pourquoi pas. Écoute, pourquoi pas. Ça peut être pratique. On va dire que c'était un des derniers points. Là, ils sont sur le fignolage. Je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir continuer à améliorer l'outil parce que techniquement, il n'y a pas 150 000 trucs. Ah oui, s'ils pouvaient faire une intégration, s'ils pouvaient faire un export en PDF plus efficace, moi, ça m'arrangerait. Mais bon, ils ne m'écoutent pas, hein, je sais. Voilà.
Et même l'export, c'est toujours en EPUB, c'est ça?
Export en EPUB, en vidéo. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Pas faire d'embed, quoi, intégré dans un site ou quoi? Toujours pas ça.
Je sais plus. Alors là, tu me poses une colle.
Normalement, oui. C'est souvent le problème. Ouais, normalement, oui, tu dis
Oui. Le génère après, encore un export en embed, oui, tout à fait.
Parce que c'était ça le problème. C'est, moi, je trouve de Book Creator, c'est la visualisation, quoi. C'était pas sur tablette. Non?
Bah si, parce que ça te génère un lien. Ouais, tu cliques sur le lien, tu l'ouvres dans n'importe quel navigateur.
Ouais, mais ça fait,
après, si tu le lis sur n'importe quel PC, il va te l'ouvrir dans un navigateur, puisque les navigateurs sont capables de lire les EPUB maintenant. Donc,
Bon, je devais te rester. Bon. En tout cas, c'était ton fil rouge de l'année, Seb. Hein.
Voilà, écoute, va falloir que je m'en trouve un pour l'an prochain. Ça va être compliqué.
Des chances. Ok, Guillaume.
Alors, je vais vous parler d'un truc. Je fais un peu les fonds de tiroir là en cette fin d'année. C'est vrai que plusieurs fois je voulais en parler et puis bon, on oublie. Alors, c'est pas directement quelque chose que j'ai eu l'occasion d'utiliser parce que je ne suis pas enseignant de français, mais d'anglais. Mais des collègues du premier degré, voire même du second degré, l'utilisent. Ça s'appelle c'est un site qui s'appelle Une dictée par jour. Donc en fait, c'est plutôt bien foutu. L'idée, comme son nom l'indique, c'est d'inciter les élèves à travailler la dictée en autonomie. J'imagine qu'on peut l'utiliser aussi en classe, mais là, c'est quand même plutôt voué à un travail en autonomie. Donc en fait, l'idée, c'est assez simple, hein, ça va être d'avoir une dictée qui est lue par l'ordinateur, si vous voulez. C'est pas une voix de synthèse, hein, c'est des gens qui ont vraiment enregistré, enregistré les dictées. Voilà, donc ils l'écoutent. Pour tout vous dire, j'y ai pensé parce que j'ai quand même entraîné certains de mes élèves au brevet, puisque comme vous êtes censé le savoir, notre ministre a décidé de décaler le brevet de quelques jours pour cause de canicule, ce qui fait que moi, dans mon établissement, on a eu comme demande de garder les enfants comme s'il y avait cours normal, donc on s'est retrouvé à finir quand même avec des élèves qui étaient là sans trop savoir pourquoi ils l'étaient. Bref, peu importe. Donc, je me suis retrouvé à faire de l'entraînement et lire pas mal de dictées. Et je me suis dit, il devait forcément exister des choses qui permettaient ça. Et c'est le cas. Donc, en fait, les élèves choisissent une dictée. Toutes les dictées sont balisées par niveau, un peu comme des pistes de ski, hein, vert, bleu, rouge, noir. Ils choisissent, ils l'écoutent dans l'intégralité. Et en fait, ce qui est intéressant après, c'est qu'ils peuvent revenir sur la dictée en correction. Enfin, ils l'écrivent, bien évidemment. Mais avec le lecteur audio qui est proposé, en fait, dans le système, ils peuvent bien évidemment s'arrêter, revenir sur les mots comme ils le souhaitent, en mettant des pauses, revenir en arrière. Ensuite, il y a l'étape d'évaluation. Et là, l'évaluation, c'est donc une vidéo, en fait, hein, qui va voir le texte. Cette fois, les élèves vont pouvoir voir le texte défiler en même temps que le son, bien sûr. Et s'arrêter là aussi, bien sûr, sur les points de difficulté pour pouvoir revenir et travailler. Donc, en fait, ce qui m'a intéressé dans ce système, c'est que déjà, il y a beaucoup de dictées. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont proposées, des difficultés variables, comme son nom l'indique. Et c'est un super entraînement en autonomie, relativement ludique, c'est bien fait, puisque les parcours proposent même des points grammaticaux, voilà, si vous voulez plus travailler sur les questions de double consonne, d'infinitif, au contraire sur les sons, sur le rapport graphiphonie. Ce qui est intéressant vraiment avec la visualisation de la dictée en direct comme ça, c'est qu'il y a vraiment ce rapport graphiphonie qui pose quelques problèmes en français, qui en pose beaucoup plus dans d'autres langues dans l'anglais, mais quand même qui pose des problèmes en français pour nos élèves apprenants. Mais ça, Seb, tu pourras en parler mieux que moi, toi qui commences, j'imagine, dans le premier degré. Et ben voilà, c'est plutôt intéressant, dès le cycle 3 sans souci, et c'est bien fait, site très moderne, je trouve que c'est plutôt joli et agréable à travailler. Voilà, donc ça s'appelle une dictée par jour, comme son nom l'indique, ça peut être utilisé de la sorte.
Eh ben, très bien.
Alors, je vais me pencher dessus, Guillaume, écoute, hein. Merci.
Voilà, moi j'aurais pas vraiment l'occasion de l'utiliser, parce qu'on fait pas trop ça en langue vivante, mais en tout cas, je pense que ça peut peut-être être intéressant avec les élèves.
Ok, juste pour finir, c'est pas vraiment un outil, mais je savais pas trop où le mettre, c'est le ministère de la Culture qui a publié, en tout cas sur son site, tout un ensemble de signés destinés à répertorier, en tout cas, toutes les expositions, visites virtuelles, de tout ce qui est musée, etc. Il y a vraiment énormément de choses dans plein de domaines différents, dans plusieurs thématiques, archéologie, l'art asiatique, l'art contemporain, l'art décoratif, l'art graphique, la céramique, la littérature, la science, la sculpture, la musique, voilà, etc., etc. Donc c'est plutôt une sacrée ressource, en tout cas. Vous allez sur le site culture.gouv.fr et vous tapez exposition virtuelle et vous trouvez, en tout cas, plein de choses répertoriées par thématique sur les différents musées et expositions, comme son nom l'indique, d'exposition virtuelle en France et à l'étranger. Voilà, c'était juste un petit truc en plus.
Eh bien, merci pour ton petit truc.
Justement, on parle de quoi ? De trucs et astuces.
Oh, bravo !
J'enchaîne ou...
Allez,
Allez. Bon, c'est assez rapide aussi. C'est une petite mise à jour qui s'est faite sur les formulaires Google. J'ai du mal à remplacer encore mes formulaires Google. J'essaye pourtant de m'échapper de l'univers Google de plus en plus. Mais Google Formulaire, j'ai du mal à trouver un outil qui me convient qui me convient autant que lui. Il y a des petites mises à jour, il n'y a pas souvent des mises à jour dessus, mais une petite mise à jour que j'ai trouvé plutôt sympathique, c'est d'importer des questions à partir de formulaires déjà existants. Avant, ce qu'on faisait quand on voulait récupérer des questions sur un autre formulaire, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait une copie du formulaire, on supprimait les questions qu'on ne voulait pas et on gardait uniquement les questions que l'on voulait. Là, c'est assez pratique, c'est différent. Quand on va créer la question sur un formulaire, on va lui dire, par exemple, d'aller importer des questions d'un autre formulaire. On choisit le formulaire et il vous indique dans un petit encadre toutes les questions. Et vous cochez les questions que vous voulez insérer dans ce formulaire. Donc, ça va. C'est une petite mise à jour sympathique, mais qui m'est arrivé plusieurs fois de faire des copies de formulaires. Là, directement, on peut choisir les questions qui nous intéressent et de ne pas réécrire ou d'effacer, etc., de toutes les questions. Voilà, c'est une petite mise à jour, je trouve, assez sympathique.
C'est pas avec ça que tu vas réussir à en sortir. Hein.
Non, c'est sûr. Non, mais j'ai du mal.
C'est quand même pas mal.
Ouais, et puis j'ai du mal à trouver un truc qui marche aussi bien, quoi, pour l'instant.
Non, mais il faut reconnaître un truc, c'est qu'il est super ergonomique, hein, Google Form. Hein, ça, voilà.
Qu'on le veuille ou non, c'est vrai que c'est quand même bien foutu.
Ouais, mais j'en ai essayé d'autres, hein, mais tu vois. Mais...
Bon, très bien. Merci pour cette astuce.
Je crois que c'est à moi dans les trucs et astuces sur, sur... Alors, j'ai vu passer ça sur Twitter et ça m'a rappelé, ça m'a rappelé quelque chose que je connaissais et je me suis dit, mais tiens, mais je vais en parler. Parce que souvent, dans les armoires des écoles, alors je ne sais pas si ça vous arrive forcément dans vos bâtiments respectifs, mais souvent dans les armoires des écoles, quand on arrive, qu'on a un nouveau poste, on découvre un espèce de musée dans les placards. C'est-à-dire, on ouvre les placards et d'un coup, on a un musée de la technologie du XXe siècle et du XXIe qui apparaît devant nos yeux. Alors, ça peut être formé de différents trucs. Moi, par exemple, une fois, j'étais tombé sur des disquettes Zip. Pour ceux qui connaissent, c'est un truc qui n'existe. Voilà, hein, voilà. Donc, une année, c'est très drôle parce que j'ai changé pas mal de postes au fur et à mesure des années. Donc, dans un poste, j'avais trouvé une réserve de disquettes Zip, mais pas le lecteur, qui était un lecteur bien particulier. Et dans un autre poste, j'avais trouvé le lecteur, mais sans les disquettes. Ouais, comme quoi, parfois. Et souvent, ce qu'il y a, par exemple, dans le poste que j'occupe actuellement, j'ai toute une réserve de CD-ROM. Alors, pour les plus jeunes d'entre nous, les CD-ROM sont des petites galettes qui ressemblent à des CD, en fait, voilà, et qui contiennent des programmes. Hein. Je sais que ça n'existe plus, c'est plus trop la mode, mais voilà, c'est encore très, c'était très, très en vogue il n'y a pas si longtemps. Et le problème des CD-ROM, c'est qu'ils ont besoin d'un environnement pour fonctionner et que cet environnement a tendance à changer puisque les suites de Windows se suivent et ne se ressemblent pas. Et dernièrement, sur Twitter, donc la collègue demandait, mais voilà, j'ai toute cette pile de CD, qu'est-ce que je peux en faire ? Et hormis ceux qui lui ont conseillé de les accrocher dans les arbres pour faire fuir les oiseaux dans le jardin, vous en avez un qui lui a dit, mais vas-y, mets-le dans l'ordinateur, fais un clic droit dessus et demande-lui de l'exécuter comme une version précédente de Windows. Et c'est vrai que je me suis dit, mais ça, c'est vraiment pratique pour les trucs que l'on a dans nos classes. Parce que parfois, on a des logiciels qui ne sont pas super jolis, qui sont un peu vieillots, mais dont les informations ne sont qu'encore à jour ou peuvent être encore utilisées. Et les collègues, parfois, vont se dire, mais ça ne passera plus parce qu'il y a marqué, je ne sais pas moi, Windows 2000 dessus ou Windows XP dessus. Et en fait, Windows, je ne sais plus depuis quelle version, est à même de s'émuler lui-même, on va dire, c'est-à-dire de faire tourner ses programmes comme s'il était une ancienne version de lui-même. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, en gros, vous mettez le CD dans l'ordinateur et soit il démarrera automatiquement en s'adaptant, soit si vraiment ça cloche, vous lui demandez avec un clic droit de l'installer comme une version précédente de Windows, c'est-à-dire du Windows XP, voire plus ancien. Mais bon, plus ancien, ça va être tellement moche que ça m'étonnerait que ce soit vraiment efficace. Donc, ça peut, voilà, hein, si vous voulez voir un petit peu si votre musée personnel de l'école a quelques ressources à vous proposer, vous pouvez encore les utiliser. Et au pire des cas, ben avec un fil dans les arbres, il paraît que ça effraie, mais bon, je ne suis pas très sûr. Et moi, je n'aime pas trop, ça ne fait pas très joli. Voilà, c'est mon truc et astuce.
Sinon, vous pouvez vous en servir comme sous-boc aussi pour les apéros, c'est pas mal.
Ça glisse. À mon avis, ça glisse. Hein.
Ouais, oh, ça s'utilise pas mal, écoute. Ouais, mais oui, c'est vrai.
Ah, c'est du vécu que tu parles, là.
Oui, tu parles, moi, en tant que musicien, des CD vierges, ROM vierges, gravés des années. Vous vous rappelez de cette époque où on gravait tout et n'importe quoi, à peu près, là, quand on avait des grammeurs.
Ouais.
Voilà. Il faut encore stocker. Voilà, c'est. Je connais des gens aussi qui gravent et qui stockent des vidéos YouTube sur des CD. Bon, cherchez pas trop, mais ça existe.
Est-ce qu'ils savent que les CD ont une durée de vie limitée ?
Ben, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, bien sûr. Très bien. Bon, ben, merci alors, pour ce.
Oui, les serveurs polluent, les serveurs. Voilà.
Oui, alors ça, c'est vrai. En vrai, d'ailleurs, ça n'empêche que ce serait vraiment intéressant de faire une émission un jour sur la pollution numérique. Il y a des chercheurs qui ont beaucoup bossé là-dessus. Il y a une dame qui était passée cette année sur Inter à un moment lors d'un podcast, justement, qui est vachement réfléchi à tout ça et qui proposait déjà des techniques pour commencer à moins polluer de manière numérique. Parce que c'est vrai que c'est quand même assez hallucinant. Hein. On connaît tous le poids d'un email, on connaît tous ce genre de choses. On n'y pense pas forcément parce qu'on a parfois l'impression d'être plus propre. Ouais. En faisant ça, alors que finalement, alors bon, je pense que c'est toujours plus propre que d'imprimer à gogo, mais notamment sur le texte. Mais il y a quand même des choses un peu hallucinantes quand on sait la demande en électricité que certains GAFA nécessitent pour alimenter diverses applications où on voit des chats qui sautent ou des gifs animés. On peut se poser quand même la question de vraiment, moi, c'est un peu ça des fois, toute cette technologie pour que des gens sur des iPhones à 1 000 € regardent des dessins de mauvaise qualité qui font rire 30 secondes, quoi. Je caricature un peu parce qu'il y a quand même des super trucs au milieu de tout ça, heureusement. Mais des fois, c'est un peu ça quand même.
Non, tu caricatures, mais il faut, moi, je reste toujours là-dessus. C'est que là, je viens de voir passer sur je ne sais quelle chaîne. Je crois que c'est France 2 qui va diffuser un reportage sur Apollo 11, l'alunissage, ouais, tout ça. Et quand tu sais que techniquement, en termes de puissance de calcul, ils avaient moins que nos smartphones actuels.
Ah ouais.
Et que nous, tout ce qu'on envoie, c'est des cochons. Fut une époque, on envoyait des oiseaux tuer des cochons.
Ah, c'est clair.
Et quand eux, ils ont balancé un homme dans l'espace, tu t'es dit, ouais, quand même, quoi.
Mais oui, ce serait une telle émission intéressante, en tout cas.
Bon. Et ben justement, on va avancer et je vais parler un petit peu des innovations et expérimentations. Et je vais commencer à parler puisque... Ah non, on en a l'innovation. On a d'abord... oui, pardon. J'étais sur ce que l'on fait en ce moment.
J'étais sur quoi, là ?
Non, j'étais sur ce que l'on fait en ce moment. Je m'étais dit que comme innovation et expérimentation, c'est un débat qui peut être un petit peu houleux. On devrait peut-être le passer à la fin, mais bon, c'est pas
grave. Ça va pas être long.
Allez, allons-y.
Houleux, voilà, tout de suite.
T'as vu l'article, c'est ça ? Non ?
Non seulement j'ai lu l'article, mais j'ai surtout vu le film. Vas-y.
D'accord. Donc, je suis parti d'un article... qui se trouve sur le site The Conversation, qui est un site que je connaissais pas, moi, l'expertise universitaire, l'exigence journalistique. C'est un article de Charles Hadji, qui est professeur de sciences de l'éducation à l'université de Grenoble, qui pose un petit peu le débat, prof en première ligne, la formation des enseignants en question. Donc là, il est parti du constat avec la loi vous savez, pour une école de la confiance, hein, que la formation des enseignants redevient en tout cas une préoccupation nationale, puisqu'il y a pas mal de changements qui vont se faire. Hein, justement, on a eu les UFM, on a l'ESPE actuellement, et il va apparaître en tout cas l'INSP, je ne sais pas comment on va dire, INSPE ou INSPE.
Pour l'instant, on parle d'INSPE.
Ouais, INSPE, Instituts Nationaux Supérieurs du Professorat et de l'Éducation. Lui se pose la question, il dit oui, bon, ok, encore, est-ce qu'il a peur un petit peu que ça se vérifie, que plus ça change, moins ça change, hein, voilà, qu'il n'y a pas grand chose qui change à l'horizon. Et il part d'une émission qui est parue sur France 5 le 18 juin, une émission Le Monde en Face, qui avait comme titre Prof en première ligne. Et qui interpelle justement très fortement par rapport à la formation des enseignants. Donc son premier truc, c'est un trou noir dans la formation. En tout cas, il dit dans cette émission, des enseignants qui sont invités à témoigner dans le documentaire, hein, comme ceux qui sont présents en tout cas dans l'émission, qui disent qu'il y a des lacunes très, très graves dans leur formation, en tout cas qu'ils ont eu, hein, aussi bien dans l'ESPE actuel ou dans les UFM d'avant, hein, où on trouve très souvent, on n'a pas été formé à ça, plusieurs fois dans l'émission, plusieurs fois ça revient dans la bouche des enseignants, on n'a pas été formé à ça. Alors en quoi ils n'ont pas été préparés ? Ben donc il y a eu beaucoup d'exemples dans cette émission, hein. C'est souvent des situations qui sont très douloureuses, souvent de violence, de souffrance. Voilà, on dit que les enseignants sont des combattants de première ligne. Voilà, et ils estiment qu'en tout cas, ils n'ont pas été formés à gérer ces situations de violence. Qu'il s'agisse de violence d'élèves agressant les personnes, hein, ou de violence de groupe d'élèves qui harcèlent un autre élève. Hein, on entend beaucoup ces histoires d'harcèlement. On leur avait pas dit, en tout cas les enseignants, à qui on n'avait pas dit qu'ils allaient être exposés à tant de souffrances dans leur formation. La souffrance provoquée par l'arrogance aussi de parents d'élèves, qui se croient plus qualifiés en pédagogie que le maître. La souffrance plus sourde, ils disent, causée par les chefs d'établissement, qui ne veulent rien savoir, rien voir, hein, qui font la sourde oreille, ou carrément l'autorité académique. Et ils se posent la question, mais vraiment, est-ce qu'on peut se préparer à la souffrance et se former, hein, à la gestion, en fait, ils appellent ça la gestion du pire. Est-ce qu'on peut vraiment former les enseignants à cette partie-là ? En tout cas, lui, pour lui, l'urgence, il dit, c'est bien de se pencher sur les contenus de la formation. Cette formation, en tout cas, devrait normalement, hein, en tout cas, c'est la demande, c'est de préparer, en tout cas, à la réalité des conditions d'exercice du métier, hein, en leur ouvrant les yeux sur ces conditions. En tout cas, lui dit qu'on peut, il appartient en tout cas à la situation de former et à faire face. Hein, il dit que c'est l'un de ces trois piliers nécessaires en tout cas à la formation des enseignants. Le premier pilier, c'est les maîtrises du contenu des disciplines, hein, ce qu'on fait pour quand on passe le concours. Le deuxième pilier, c'est celui de la dimension professionnelle du métier, hein, tout ce qui est didactique, pédagogie. Et il dit, il existe un troisième pilier qui fait, pour l'instant, qui ne fait pas partie de la formation d'enseignant, en tout cas, c'est qui consacre, en tout cas, la formation humaine et relationnelle. C'est avoir faire face à un groupe d'êtres humains, d'accord, ce qui est quand même la base de l'enseignant. Et quand est-ce qu'on l'apprend, ça? Ben, pour l'instant, c'est compliqué. Mais il dit pourtant, j'aime bien en tout cas l'analogie qu'il fait, il dit mais les pilotes, pourtant, ils apprennent bien. Il serait difficile en tout cas de former les enseignants ça, il faudrait qu'ils soient en situation réelle. Et il fait une analogie avec les pilotes, hein, qui eux n'apprennent pourtant l'essentiel de leur formation, c'est sur simulateur de vol. Donc j'avais trouvé assez sympa cette analogie. Un combat, en tout cas, pour les enseignants eux-mêmes, le combat, c'est un combat pour la défense de la langue, de la culture, pour les défenses des valeurs républicaines, pour le maintien du service public dans les quartiers déshérités, pour le respect de la personne des profs et des élèves, pour le retour d'une autorité légitime. En tout cas, il conclut par « on aurait sans doute plus besoin de reconnaissance sociale hein. ». Alors, il parle de salaire aussi et d'un appui aussi constant hein, des autorités que de formation. Les enseignants, en tout cas, ont pour principal combat de lutter contre l'ignorance, l'erreur des préjugés, contre le manque de qualification et le défi en compétences. C'est en tout cas ce que voilà. Donc, il espère, en tout cas, que les futurs INSPE ne négligent en tout cas aucun de ces trois piliers. Et ça conclut comme ça, en tout cas, cet article. Est-ce que moi j'ai la question
très bien.
Paul, particulièrement à Guillaume, est-ce que vraiment l'ESPE actuel, en tout cas, n'aborde pas se faire face à un groupe d'élèves, cette difficulté, alors peut-être pas de violence, mais est-ce que vraiment on n'aborde pas ça dans aucun des la formation initiale?
Bon, j'ai combien de temps là?
Vas-y.
Ouais, j'aurais vraiment, vraiment besoin de développer la réponse là, parce que c'est un sujet qui pour moi est au cœur de mon métier, bien sûr, et puis encore plus d'une réflexion que j'ai en ce moment et qui me touche au titre professionnel et personnel. Plusieurs choses. Je trouve en ce moment, je vais essayer de partir un peu plus large en fait, je trouve qu'en ce moment on tire beaucoup beaucoup sur les enseignants, encore plus que jamais, enfin je ne sais pas si vous avez senti ce sentiment, les collègues et les copains, j'ai jamais entendu dans mon entourage autant de gens, ça a été surtout mis en valeur ces 15 derniers jours avec le décalage du brevet par notre ministre, parce que on a quand même encore des gens débiles qui pensent que c'est pour nous faire, je sais pas pourquoi, mais bon, bref. Encore plus avec les grèves des correcteurs du bac, et on va pas en parler ici tout de suite parce que c'est un débat, mais bon, voilà. En tout cas, vraiment, je trouve qu'il y a une tension vraiment, à la fois, il y a une tension très forte mise sur les enseignants, enfin, très critiquée, mais en même temps, des gens aussi qui, de plus en plus, nous disent, oula, mais je pourrais rien au monde ce boulot. D'ailleurs, il n'y a pas plus tard que cet après-midi, j'ai partagé un article du Café Pédagogique qui relatait de manière officielle que cette année, 1400 postes d'enseignants n'avaient pas été pourvus au concours. Donc moi, je réponds à tous ces gens que ils ne doivent pas hésiter si on est si fainéant que ça, tout ça, ne pas hésiter. Bon, toujours le même truc, vous connaissez, de venir passer les concours, puisque a priori
L'article dit bien en tout cas, hein, ça sur le.
L'article dit bien, le dit bien.
Vraiment. Oui. Donc, il y a 1400 postes pour sauver la France. Allez-y.
Voilà, exactement. Pourquoi je parlais de ça? Parce que à titre personnel, je parlais de titre personnel, ça pèse un peu moi. Voilà, ça me pèse dessus. J'en ai un peu marre. Disons que je prends un peu plus vite la mouche là où je m'en foutais maintenant, même des fois quand c'est sur le ton de l'humour et compagnie, venant de gens qui n'y connaissent en fait rien, ça commence à m'énerver un peu. Bon, je fais attention. Et pourquoi je parle de ça, c'est que la vidéo qui est mentionnée dans l'article dont tu parles, Jeff, prof en première ligne, je l'ai bien sûr regardée dès sa sortie, je sais pas si vous l'avez vue ou pas. Ce reportage réalisé par Léa Drucker, et voilà. Donc j'ai regardé ça avec une certaine, je savais pas trop quoi en attendre. Donc, voilà. Bon, là aussi on pourra en parler longuement. Donc ils ont choisi cinq professeurs vraiment issus de milieux différents, premier degré, collège, lycée pro. Il en manque un, je sais plus où, il y a un autre premier degré, mais d'un peu plus rural de mémoire. Et en fait, le reportage commence avec une phrase qui m'a vraiment plu tout de suite, qui est justement de dire, voilà, on va tout le monde, c'est comme le foot à un moment de la Coupe du Monde, quoi. On a tendance à dire qu'il y a 40 millions de gens qui aiment le foot et qu'il y a donc 40 millions de sélectionneurs de l'équipe de foot en phase de Coupe du Monde. Et ben, c'est un peu pareil. Étant donné qu'on est tous allés à l'école, on a l'impression d'être tous capables d'être prof ou de juger le travail du prof. Et c'est ce que dit Léa Drucker au début en voix off. Elle dit, on va aller écouter enfin les gens dont c'est le métier parce que, j'ai plus la formule exacte en tête, c'est qui dit mais c'est pas parce qu'on est tous allé à l'école qu'on la connaît en fait, et c'est pas parce qu'on est tous allé à l'école qu'on sait ce qu'il en est. Donc ça m'avait bien plu en me disant bah chouette, on va peut-être un peu redorer le blason. Donc c'est pas faux, c'est ce qui est tenté de faire, c'est ce qui est tenté d'être fait, mais en fait elle n'a choisi que des portraits de gens en souffrance.
En souffrance, oui, c'est ça.
De gens en souffrance ou en tout cas qui admettent et qui reconnaissent porter un combat difficile. Alors bon, c'est sa thèse, hein, elle parle du prof en première ligne, donc bien évidemment, mais j'ai trouvé que ça manquait complètement de discernement. C'est-à-dire qu'à un moment, il aurait été aussi bien de montrer des profs épanouis qui ont peut-être des difficultés, mais qui continuent. Alors, c'est un peu le cas pour un des profs, mais il y a quand même une jeune fille qui est par ailleurs absolument adorable et la plus jeune du premier degré, qui à un moment dit, au tout début, qui dit d'ailleurs, ben, j'aime mon boulot, mais j'espère pas trop, en gros, pas trop ramasser. C'est pas ses termes, elle dit, j'espère pas trop me faire écraser, mais ça va arriver. Un peu comme si elle était résignée au bout de 3 ans d'enseignement de partir du principe que de toute façon elle se fera écraser. Et ils interrogent son compagnon à cette dame qui lui aussi est dans une situation difficile parce qu'il était contractuel, il a passé un concours après, mais en gros ça lui plaît pas. Enfin, il y a que des portraits de gens un peu fatigués, quoi. Et je me dis que l'axe, alors bon, on sait que c'est du journalisme, on sait qu'il y a de l'inéditorial, on sait que c'est pas du tout objectif, mais là encore, finalement, il y a peu d'espoir, quoi, dans ce truc. Moi, je suis sorti de ça en me disant finalement, putain, mais en fait, il y a des vérités, mais c'est lourd, quoi, c'est affreusement lourd. Et surtout, il y a un truc qui m'a vraiment, vraiment dérangé, c'est qu'à un moment, la seule prof qui a l'air un petit peu, une prof de français là, qui a l'air un petit peu tenir la route en disant qu'elle fait des projets, qu'elle reconnaît que c'est dur. À un moment, juste à la fin, elle dit « Et vous, vos enfants ?» Et elle dit « Ah non, moi, mes enfants, je les ai mis dans le privé parce que je suis garant. » Texto, elle dit « C'est encore le seul établissement qui garantit l'enseignement minimum. » Pardon. Moi, j'ai entendu ça, je suis tombé de ma chaise. Et on était avec des collègues à côté, on regardait tous en même temps, là, on a eu tous la même réaction. Bien sûr que oui, je suis absolument anti-privé, vous le savez, c'est quelque chose qui me dépasse, je ne comprends pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais bon, bref, je ferme la parenthèse, on n'a pas le débat ici. Pour moi, l'école de la République, elle est unique et indivisible. Mais bon, bref. Mais du coup, laisser ça dans ce reportage, c'est Léa Drucker, elle dit à tous les gens qui ne connaissent pas, elle enfonce ce que déjà beaucoup pensent, en pensant que on ne sait pas par quelle opération du Saint-Esprit, pourquoi l'école privée arriverait à garder des contenus que les autres n'ont pas. Non, qu'il y a une sélection d'élèves, on le sait, tout ça, mais pas plus, en fait, c'est faux. Il y a aussi des bahuts privés qui galèrent, avec des collègues qui galèrent aussi. Mmh. Oui, ça donnait cette image un petit peu de... dans le public, ils sont tous en train... En gros, si je veux caricaturer, c'est dans le public... Les gars, ils sont en première ligne, ils s'en prennent plein la gueule parce que c'est des enfants qui, pour la plupart maintenant, sont issus de l'immigration. Donc, face à des difficultés sociétales lourdes qu'on n'a pas dans le privé. Et même si ça peut être une réalité dans certains coins, et je suis bien placé pour le savoir en travaillant en centre-ville de Saint-Etienne, c'est pas du tout l'image générale de la société française aujourd'hui, c'est pas du tout l'ensemble des établissements. Donc, j'ai trouvé que ça manquait vraiment de discernement. Et effectivement, il est parlé de la formation. Dans ce truc. Et là, pour revenir sur ce que... Donc, pour répondre à ta question, Fred, je pense que oui... Fred, n'importe quoi, je ne vais pas y arriver. Avec des fêtes toute la journée, je suis vraiment fatigué. Pour répondre à ta question, Jean-François, Fred, pour répondre à ta question, Jean-Pierre, je n'ai plus mes mots, mais présenter de la sorte sur ces trois piliers, ce n'est pas complètement faux que c'est un peu absent. C'est peut-être le parent pauvre, effectivement. C'est-à-dire qu'à mon sens, l'ESP est tout à fait capable aujourd'hui d'enseigner la didactique et la pédagogie. En tout cas, moi, c'est ce que je fais dans mes cours. Et a priori, je parle pour moi, sinon mes étudiants sont satisfaits dans les évaluations que je fais. Le premier pilier qui est de l'ordre de la discipline, bah oui, en tout cas, si c'est mal fait, il y a un problème, puisque c'est l'université qui le fait. Je sais qu'en fac d'anglais, le master MEF anglais, c'est les collègues universitaires qui enseignent la discipline. J'espère qu'ils font bien leur boulot, mais là aussi, pas trop à se plaindre. Et sur le troisième pilier, c'est pas faux. Il y a des choses, mais le vrai problème, il est là quand tu lis l'article. Comment aujourd'hui on peut enseigner des situations de conflit? Alors peut-être qu'il y a peut-être un entre-milieu, mais comment on fait? On va faire un jeu de rôle, on va faire à dire à un élève, toi tu joues l'élève en difficulté, tu vas les casser à l'autre.
C'était mais... ça l'analogie avec le simulateur de vol, c'était ça.
Moi je l'ai fait quand j'étais à l'époque stagiaire, Même des fois, en groupe de suivi, on en parle un peu, on essaye de le faire, mais en fait, on le fait 5 minutes parce que les mêmes étudiants qui réclament ça se disent au bout de 5 minutes que c'est complètement bidon puisqu'on n'arrive pas à avoir la même situation qu'en réalité. Ce n'est pas possible. Donc, moi, j'en suis à un point où je me dis, on pourra en parler plus, ça, c'est une évidence. Je pense qu'on peut en parler plus. Mais ça ne s'enseigne pas. Enfin, je veux dire, comment on peut enseigner aujourd'hui? Oui, alors peut-être donner des trucs et astuces ou un minimum sur comment différer, essayer de calmer un peu les tensions. Mais même moi, aujourd'hui, je ne suis pas certain de pouvoir. Vous êtes capable, vous, toi, Jeff, qui bosse dans le second degré, mais enfin, toi, Seb, c'est pareil, tu as certainement eu des situations. Mais comme ça, tu es capable de te dire quelle est la règle numéro 1, qu'est-ce que tu fais en cas de conflit grave dans une classe? Oui, à part dire je vais aller séparer les gens autant que faire se peut, les isoler, essayer de calmer la tension avant tout. D'accord, mais ça, tu le dis en 5 minutes. Ça ne va pas être un module de 24 heures. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils attendent? On est toujours un peu dans ce truc aujourd'hui très consumériste où même dans la formation, les jeunes attendent des recettes toutes faites, toutes cuites. Moi, j'ai quand même des stagiaires qui aujourd'hui te disent « mais elles sont où les séquences, quoi ?» Alors oui, à l'inverse, il y a eu trop de formateurs aussi qui ont dit… le côté ben, vous allez vous mettre en groupe et puis c'est vous qui allez faire le truc. Ça aussi, j'en veux plus moi non plus. Je suis le premier à dire ça en formation, à dire on va pas faire ça, vous allez avoir du contenu. Mais il y a un moment, on peut pas non plus tout donner sans réflexion derrière. Donc, je crois que la vraie problématique de la formation aujourd'hui, c'est tout simplement que en une seule année de cours, hein, quand on a… Parce qu'en fait, il ne faut pas se mentir, le Master 1, c'est du bachotage pour préparer le concours. Hein, il y a quand même quelques cours. Il y a quand même quelques cours qui sont faits, mais les étudiants ne sont pas prêts. Parce que justement, ils sont uniquement dans l'objectif du concours, donc tu as beau leur parler de plein d'autres choses, ça ne leur parle pas. Et quand tu arrives après sur l'année de Master 2 de stage, quand ils l'ont eu, parce qu'ils peuvent être aussi dans une situation où ils repassent le concours pour ceux qui ne l'ont pas eu, eh ben, ils ont leur classe à mi-temps à charger qui leur prend tout un tas, et leur cerveau n'est pas prêt à écouter des informations qui pourraient servir pour plus tard. Parce que l'aberration de notre truc, n'oublions pas, c'est que quand on est stagiaire, on est protégé parce qu'on n'est pas envoyé au front. C'est bien sûr la première année où on est envoyé au front, et c'est qu'en fait là que la vie commence, comme je dis. Hein. Donc c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire aux stagiaires qui ont déjà des difficultés sur leur année de stage à mi-temps, dans des bahuts en général plutôt préservés, même s'ils peuvent être difficiles, mais ils n'ont rien à voir quand même pour le second degré au bahut de la Seine-Saint-Denis dans lesquels ils pourront être envoyés. Je leur dis, profitez-en pour cette année pour préparer des trucs, en échanger, discuter, parce que l'année prochaine, ça n'a rien à voir. Donc, c'est clair qu'il y a un énorme saut entre le stage et la réalité. Je crois que ce n'est pas une question de contenu. On peut imaginer des situations pour gérer la violence, pour gérer tout ça, mais on le sait. Enfin, comment vous dire ? Je n'ai pas envie non plus de saquer mon boulot et dire qu'on apprend que sur le tap, mais il y a quand même une grosse partie qui va être… Moi, j'ai tendance à dire que l'ESPE ne peut que former à la préparation, à l'anticipation et à la gestion large de tout type de situation. Mais je ne me vois pas faire un cours demain en disant « Allez, aujourd'hui, c'est le cas bagarre raciale. Un noir qui prête à un autre de… » Non, mais ça va bien, enfin, vous voyez. Et des fois, on attend presque qu'il faudrait aller aussi près dans des situations. Enfin, on peut pas faire ça, quoi. Enfin, je vois pas vraiment comment on peut faire ça. Donc… À mon avis, il y a de quoi faire. Il y a une grande marge de manœuvre. On est bien d'accord. De retour sur peut-être plus en parler. Voilà. Mais je vois bien, moi, dans ce que je connais dans mon ESPE, pour le coup, il y a un super module égalité filles-garçons qui est, à mon avis, essentiel pour comprendre le fonctionnement des filles et des garçons à l'adolescence, psychologie adolescente. Tous les gens qui en ressortent disent « Oh ben, on a perdu notre temps, on serait mieux en train de préparer notre cours. » Parce qu'à l'instant T, ah oui, ces gens-là perdent 4 heures en amphi à écouter ça. Pour eux, c'est une perte de temps parce qu'effectivement, ils ont plus de temps. Voilà. Oui. Sauf que dans 3 ans, ils vont se dire bah, « Peut-être que… » Parce que 3 ans après, tu ne regardes pas des cours que tu as pris en amphi 3 ans avant. Il faut arrêter.
Non, mais tu vas y reprendre.
Oui. Mmh. Donc moi, je crois que c'est plutôt la formation tout au long de la vie et surtout la formation… post-SP dans les 3 premières années où il n'y a plus rien là clairement. Par contre, je sais que dans le second degré ils ont 2 jours, c'est n'importe quoi. Il devrait y avoir plus de choses parce qu'ils auront plus de recul par rapport à la pratique et donc des vraies questions qui là vont commencer à se poser qu'ils n'ont pas sur une année de stage où ils sont submergés par l'immédiateté de faire un cours, quoi, tout simplement.
Mais tu as tout à fait raison, c'est la formation continue. Il faut arrêter de chercher à réinventer le truc. Tu as très bien présenté les choses au début. Tu n'as pas de questions, tu n'as qu'une représentation d'a priori qui vaut celle de ton voisin du café du commerce qui te sort des conneries comme s'il était au bar. Ça vaut ça au début. Tu n'as pas de vraies questions. Arrivé sur le terrain, tu vas avoir de vraies questions, mais tu n'auras plus de réponses parce que tu n'as pas de formation continue qui vaille le coup réellement. Mais malheureusement, la formation continue, ça, on sait le problème, hein, c'est que c'est compliqué, ça vaut cher, hein, surtout la formation continue. Exactement. Et que ça devrait être le premier poste de dépense si tu veux améliorer l'enseignement et que ce sera, pour l'instant, c'est toujours rester le dernier, quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils en fassent. Voilà.
Tout à fait, tout à fait. Okay. Alors, bon, moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à cet article et au reportage en général, là, c'est que de toute façon, de tout temps, les gens ont gueulé sur la formation et c'est ce que dit l'article. Bon, on peut le prendre comme un postulat de départ. Voilà, c'est pas parfait, ça ne le sera jamais. Les gens s'en demandent, mais à la fois, ça ne pas. Parce qu'on voit, on entend souvent les étudiants qui gueulent, mais quand on regarde au microscope, quand on vit de l'intérieur, on a aussi plein de gens qui, maintenant, de plus en plus, ne rendent pas les mémoires, ne rendent pas les écrits réflexifs parce qu'ils partent du principe que, voilà, on est aussi dans une génération aujourd'hui où, voilà, bah, de toute façon ça sert à rien donc je le fais pas et je serai quand même validé parce que c'est UE, ce qu'on pensait que c'est UE. Bon, il y a tout un tas de trucs. Je crois par contre que bon, le système n'est pas parfait, les gens gueulent, sauf que effectivement je veux bien croire que la réalité des classes aujourd'hui est un peu plus difficile, surtout pour ceux qui sont sur plusieurs postes, dans les jeunes profs qui sont envoyés sur plein de postes en même temps, voilà, parce qu'il y a besoin de remplaçants, ça on le voit bien dans le reportage. Je crois que, voilà, je l'ai dit avant qu'on discute de tout ça, 1400 postes non pourvus encore cette année, ça en dit long sur l'attractivité du métier, et ça, c'est sociétal. On le voit bien, aujourd'hui, le statut du prof, il est… Ça fait quelques années hein, que c'est plus Marcel Pagnol, hein. Ça fait quelques années que c'est pas celui qui détient la connaissance. Et puis d'ailleurs, moi, j'étais pas spécialement, j'ai pas fait ce job pour ça. J'en ai rien à foutre que les gens me voient comme Monsieur le Professeur. Je m'en tape complètement. C'est pas ça mon but. Par contre, il faut pas que ce soit l'inverse non plus. Et l'autre jour encore, avec notre ami Blanquer qui a décalé le brevet. Dans ce cas, les mairies ont commencé aussi à dire pour le premier degré. D'ailleurs, chez Seb, je sais pas si tu l'as eu. Il y a eu commencé à poindre l'idée de peut-être fermer les écoles le jeudi et le vendredi. Et moi, sur Internet, des gens dans mes réseaux, hein, dans les réseaux sociaux, qui commencent à dire « Eh ben, c'est super, maintenant on fait ça, qui c'est qui va garder nos gosses ?» quoi. Et moi, j'ai tout de suite répondu en disant « En fait, la question à vous poser, c'est pas ça, les enfants. C'est pas qui va garder nos gosses, c'est éventuellement qui va assurer l'enseignement à mes élèves. » quoi. Sauf que pour les parents, le problème, c'était pas que leur élève n'ait pas cours. Bon, tu vas me dire « On était à la toute fin d'année, et ça, je suis d'accord. » Mais ça en dit long sur le sous-entendu, quoi. C'est qui garde mes gosses quand moi je vais au boulot, en fait. Et je dis pas que c'est, attention là, si les gens pouvaient réagir en direct, je pense que ces gens-là me tireraient dessus. Je suis pas en train de dire que c'est pas une problématique réelle. Je dis pas le contraire, bien évidemment. Je dis juste que quand on réagit comme ça d'entrée de jeu, c'est clairement pour une frange de la population. Et on voit bien le conséquence qu'il risque à l'école aujourd'hui dans certaines écoles. En fait, on s'amuse avec des enfants toute la journée, quoi. Et ça, pour moi, c'est un problème. Et je dis pas que c'est la, je dis absolument pas que c'est la réalité de toutes les écoles et tout ça, bien sûr, hein, mais, je pense que c'est ça qui peut te poser problème. Voilà.
Très bien. Très bien, je savais que c'était un…
Eh ben ouais, c'est
très bien. Tu as mis une pièce dans la machine, hein, tu n'as pas été déçu.
Mais c'est d'actualité, j'avais Guillaume allait rebondir dessus. Et...
Allez, c'est plus une rebondissement.
Oui, parce que vraiment, c'est le cœur du truc. Et...
En tout cas, n'hésitez pas à faire des retours hein, dessus, donner un petit peu… Voilà. Donnez un petit peu vos avis là-dessus, voilà. En tout cas. On continue voilà. Allez, on passe à autre chose. Qu'est-ce que vous faites en ce moment
Allez-y, j'ai trop parlé, moi, déjà.
Allez, c'est moi. Bon, ben moi, on va commencer à préparer Ludovia, puisque avec Seb, on sera présent à Ludovia. Tu as des dates en tête, 21 ou non, c'est ça?
C'est ça, c'est ça. Tu y es à partir du 21 août.
Voilà, on sera présent en tout cas. On présentera un Explore Camp tous les deux, donc un petit atelier. Et normalement, on devrait être présent en tout cas tous les soirs en live, comme l'an passé.
Tout à fait.
Voilà, encore des choses à fignoler un petit peu sur la forme, mais on sera présent en tout cas. Donc, on commence un petit peu à réfléchir comment ça va se passer en tout cas.
Super.
Oui. D'ailleurs, si avant l'Explore Camp que Jeff et moi on présente, vous n'avez rien à faire, j'en présente un tout seul. Hein, donc, venez nous voir. En vrai, mais venez me voir aussi en vrai. Voilà. Hein. Nous, on présentera à deux, on présente la carte Microbit et moi tout seul, c'est la QR carte. Il y a un jeu de cartes en fait hein, ce matin.
C'est ça.
Je viens de faire le lien.
Voilà, vous trouvez en tout cas le programme entier Ludovia. Voilà. Et le soir, on essaiera d'être en live. On n'a pas encore acté l'heure, etc. Mais et la forme, mais ça se prépare.
Tout à fait.
Et Seb, toi, tu es en train de faire quoi en plus?
Alors moi, en plus, je vide ma clé USB. L'année vient de finir. Voilà. Donc, il va falloir faire de la place pour l'année qui vient. Et mon partenaire de travail, ben, c'est ma clé, hein, parce que je m'en passe toujours pas, même à l'ère des serveurs et autres.
Ouais.
Okay. C'est tout un truc avec moi. Un de ces quatre, il va falloir que je vous fasse une présentation. J'ai toute une organisation dans ma clé, tout est bien rangé par ordre, etc., pour que ce soit bien clair. Et ça prend du temps parce que là, sur ma clé de 32 gigas, ben, il me reste moins d'un giga de libre. Donc, je vais dire qu'il était temps que l'année s'achève. Et sinon, ben, je me suis dit que j'allais m'amuser un petit peu. Je fais du montage sonore avec vos voix en ce moment, c'est sympa. Donc ça me permet de vous. Alors ça me permet de vous dire qu'on reprendra comme l'an dernier, comme l'été dernier, si par hasard vous avez manqué un de nos fameux épisodes de cette année, que vous vous dites oh, c'est dommage quand même. Et puis ils avaient parlé d'un outil, il était sympa, mais je me rappelle plus. Vous avez la flemme d'aller fouiller, eh bien on vous fera comme l'année dernière un bon petit best-of sous forme de quelques épisodes qui paraîtront cet été en forme de caisse à outils où on récapitule tous les outils qu'on a pu présenter cette année, qui d'habitude sont beaucoup plus florissants que pour ce dernier épisode. Voilà. Et vous aurez l'occasion de réécouter ça tranquillement, au bord de la piscine, au bord de la mer, avec une bière ou avec un cocktail, comme vous voulez, et avec nos charmantes et douces voix qui vous accompagnent.
Et dans tous les best-of, on parlera de Beau Creator. Hein,
ouais. Et même pas en plus Monsieur Mauvaise Langue, parce que souvent, c'était des trucs à astuces. Voilà.
Allez, à moi.
Ouais, qu'est-ce que tu fais, toi ?
Eh ben moi, on a eu la chance dans mon établissement d'être labellisé dans mon collège Euroscol. Donc, c'est une nouvelle norme qui vient d'être créée pour des labels donc, voilà, européens avec des volontés de partenariat européens, a priori, en tout cas internationaux. C'est tout nouveau. Bon, nous, on est un peu précurseur là-dedans, parce qu'on a un début de cité internationale qui se crée. Donc, on a pas mal de projets. Voilà, bah, écoutez, ça veut juste dire qu'on est... on va être moteur pour créer des partenariats via eTwinning, si vous avez déjà entendu parler de eTwinning, mais je pourrai en parler l'année prochaine un peu plus, obtenir ce qu'on appelle des mobilités pour les élèves, d'abord virtuelles et puis des réelles peut-être, et créer des vrais échanges avec des partenariats voilà, avec des pays européens pour des projets qui, je l'espère, seront vraiment chouettes. Voilà, le label Euroscol.
Très bien. Et bien voilà, on finit doucement. Hein,
et ouais.
On parle d'autre chose ?
De quoi tu veux parler en cette fin d'épisode, mon cher Jeff ?
Je vous avoue que personne n'avait rien mis sur parler d'autre chose. J'ai dit, est-ce que vous voulez parler de vos vacances ? Qu'est-ce que vous faites de beau pour les vacances, les gars ? Des idées de vacances pour ceux qui nous écoutent.
Eh bien, voilà. Ou qu'est-ce qu'on va lire ? Qu'est-ce qu'on va écouter ? Vous avez déjà fait votre lecture de l'été. Vous avez des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire dans le reste de l'année qui vous... Voilà, ça y est, je vais pouvoir le faire. Racontez, dis-nous tout. Seb, on t'écoute.
Bon, alors, comme je vais me partager entre les Pyrénées et la Corse pour changer, que j'ai un bon millier de titres à lire sur ma liseuse qui ne sont toujours pas achevés, je me suis dit, tiens, je vais sûrement me remettre un petit jeu vidéo derrière, puisque j'ai quasiment fini le précédent, dont je vais sûrement passer à du Dead Cell. Hein.
Ouais,
ouais. C'est des soldes en ce moment. Puis, Guillaume, tu en avais tellement bien parlé l'autre fois.
Oh, ouais.
Donc, voilà, en fait, ça, et puis... Le montage, ça prend du temps parfois aussi. Il y a des choses à faire. Puis on va se reposer surtout, on va reprendre un peu d'énergie pour aborder l'année qui va être encore bien chargée. Jeff, toi ?
Ben moi, je vais être entre les Alpes et l'Atlantique. Voilà. Un petit stage de surf une semaine au mois d'août, ça va faire du bien. Pas mal sportif et pas mal aussi de préparer un petit peu aussi, c'est vrai, la rentrée, etc. Donc, je pense qu'on va être bien, bien, bien plein. Moi, j'ai pas de bouquin à lire. Faudrait que me proposiez assez rapidement parce que c'est vrai que j'ai.
Tu as fini La Horde du Contrevent ?
Oui, j'ai fini. Oui, je l'ai fini. Je l'ai fini. Et c'est vrai qu'à part pendant les vacances de juillet-août, je lis pas grand chose le reste de l'année. Donc, faudrait me trouver quelque chose, quoi.
Eh bien, écoutez, moi, je vais aussi être du côté un petit peu de l'océan et des Pyrénées. Voilà, et entre ça, je vais beaucoup faire de musique, comme d'habitude. Voilà, beaucoup, beaucoup de concerts de partout en France. Ça a commencé cette semaine et ça continue. Voilà, donc si vous passez, si vous êtes vers Reims, si vous êtes en Charente, si vous êtes dans l'Indre, si vous êtes en Normandie, si vous êtes dans les Alpes sur l'été, vous pouvez toujours aller voir mon groupe qui s'appelle, je vous le rappelle, Devil Joe and the Pack Doorman, et il y a les dates des concerts, voilà. Donc sinon je vais pas mal faire de musique, lire aussi, et peut-être tenter de terminer ce Zelda sur Switch qui me pose beaucoup de problèmes. Mais voilà, comme je fais beaucoup d'heures dans le camion du groupe, c'est pratique, je peux jouer. C'est des moments où c'est super. En fait, j'ai pas le temps de jouer l'année, et là je peux jouer dans le camion, c'est top. Voilà.
Ouais, je vous conseille d'aller voir l'Instagram de Devil Joe and the Back Doorman. C'est assez marrant.
Ouais. Puis on dit des bonnes conneries. Et voilà, on a découvert récemment. En fait, on a un groupe de vieux hein, par rapport aux jeunes, donc les réseaux sociaux ne maîtrisent pas. Et on a découvert les filtres là, donc on s'amuse beaucoup dans le camion.
Allez voir Guillaume et dites que vous l'avez découvert grâce à E-Teachers.
Avec des têtes de guignol, voilà. Ouais, très bien. Je vous ferai une remise sur un cadeau qu'on n'a pas de toute façon, mais voilà.
une photo avec.
Si. Je pourrais vous faire une photo dédicacée avec un filtre, une langue qui sort là, et éventuellement le disque, pourquoi pas. Voilà. Tout à fait. Voilà.
Et bien voilà pour la dernière. Donc on se retrouve normalement fin août, début septembre. On verra bien. Pour l'instant, normalement on repart pour une nouvelle saison, non?
Exactement. Avec grand plaisir en tout cas.
On espère qu'on retrouvera notre Sébastien américain, hein, qui va pouvoir essayer de trouver. On va essayer de caler ça en septembre. En tout cas, si d'ici là, vous êtes en manque de teachers, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Twitter et teachers.fr. Vous pouvez aller sur notre site teachers.fr pour aussi débattre un petit peu des différents sujets comme aujourd'hui sur la formation des profs. N'hésitez pas. Hein, ou si on a raconté des bêtises, hein, comme moi la semaine dernière. Voilà, vous pouvez toujours vous nous trouver aussi sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi laisser des commentaires. Hein. C'est un moment que je ne suis pas allé voir. Remarque les commentaires iTunes, ça va peut-être que j'y aille. Et voilà, et puis on a toujours, si vous voulez nous soutenir aussi, on a toujours notre petit Tipeee hein, que vous pouvez mettre pour nous aider. Ça nous paye un petit peu les différents frais que l'on a. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Si on veut en savoir plus personnellement, comment on fait, Seb?
On va sur l'oiseau bleu, Twitter, et on tape Stuteur, Stuteur. Et toi, Guillaume?
Et ben pareil, sur le petit oiseau bleu, et on tape Willo, W-I-L-O, underscore teach, T-E-A-C-H.
Ok, moi c'est Jeff8342. On est un peu triste pour cette dernière, je trouve, il n'y a pas trop d'ambiance. Hein. Hein, c'est la dernière, c'est pour ça? C'est les vacances.
C'est les vacances, et puis on s'est bien reposé toute l'année. Et puis voilà.
Alors, le titre de l'émission, je peux pas mettre c'est les vacances, hein. J'ai dû le faire une ou deux fois déjà, il faudra trouver un autre. Hein.
Et ben tu te mets en espagnol, et las vacaciones, un truc comme ça. Là.
Ok, ça marche.
Voilà, t'as pas mieux.
Hein. Les Pyrénées, vous êtes pas loin, c'est pour ça.
Sinon, tu le mets en Corse. Voilà, je sais pas comment on dit en Corse, mais voilà. C'est bon, Corse, non?
Non, on va pas commencer.
Non. Ouais, ça marche.
Allez. Bonne soirée à tous. Salut.
Ciao. Salut.